today
c'est pas du vent.
Is government and politics. But what they do for the people of tomorrow,
sur RFI,
that is statesmanship.
You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove
c'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Friends, in each of our countries, we are seeing the devastating impact of a changing climate.
No time for blah, blah, blah.
Floods. Cyclones, wildfires, record temperatures.
Scientists believe it's human activity that's driving the temperatures up, a process known as global warming.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Choquant, pas sérieux, décevant, quel est l'adjectif le plus adapté pour résumer le ressenti de ceux qui espéraient des avancées concrètes et enthousiasmantes à la COP26 pour enrayer le changement climatique? Mais ce n'est pas fini, me direz-vous, nous ne sommes que vendredi. Oui, mais je vais vous l'avouer, c'est ma 10e COP et par expérience, ce n'est pas dans la dernière ligne droite que les propositions les plus audacieuses arrivent sur la table. Sauf pour l'accord de Paris en 2015, mais la dynamique était bien plus forte qu'ici à Glasgow. Les rapports des scientifiques sont pourtant clairs. Nous avons 10 ans pour diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre. Les sécheresses, les inondations, les tempêtes à répétition devraient inciter à l'action. Mais cette urgence semble désespérément ne pas franchir les lourdes portes des négociations onusiennes. Tiens, désespérant, c'est sans doute cela le meilleur adjectif. Coalition de 100 pays pour lutter contre la déforestation, de 80 pays pour limiter les émissions de méthane, de 40 pays qui souhaitent arrêter d'exploiter le charbon. Cette COP26 a été marquée par une avalanche d'annonces, mais qui va vérifier le suivi de la parole donnée? Pour l'instant, personne. Ce qui est sérieux et concret, c'est le travail effectué par les analystes du Climate Action Tracker, comme Marie-Camille Attard. Elle analyse les politiques climatiques des pays pour le Climate Analytics, une organisation partenaire du Climate Action Tracker.
Alors, le Climate Action Tracker, c'est donc un outil en ligne derrière lequel il y a une armée d'analystes, en gros, qui analyse l'action climatique de 40 pays. Qui couvre à peu près 80% des émissions globales. Donc dans ce cadre-là, on analyse d'abord ce que font les pays en réalité, donc quelles sont leurs politiques mises en place pour réduire leur empreinte climatique, mais également quelles sont leurs promesses et leurs objectifs de réduction d'émissions à différents horizons, à 2030 par exemple, à 2050.
Et à l'occasion de la COP26, là, il y a donc eu la publication du dernier rapport du Climate Action Tracker. Alors, qui donne quoi dans les grandes lignes?
Alors, on a analysé le réchauffement global à 2100, si l'on se base sur ces différentes composantes du Climate Action Tracker. Donc, si on regarde ce qu'ont promis les pays à 2030, on serait sur un réchauffement global de 2,4 degrés. Par contre, quand on regarde leur politique actuelle et on regarde les actions qu'ils ont mises en place, on serait sur un réchauffement à 2,7 degrés. Donc il y a clairement un écart entre leurs actions, ce qu'ils mettent en place réellement, et leur objectif de réduction d'émissions à 2030.
Mais 0,3 degrés, c'est pas beaucoup ?
La différence entre 2,7 et 2,4 degrés de réchauffement global est en fait très importante quand on la regarde d'un point de vue des impacts du changement climatique. Donc le tout récemment publié rapport du GIEC indique qu'entre 1,5 et 2 degrés, la probabilité à laquelle des événements extrêmes aura lieu sera presque doublée, alors qu'on parle d'un réchauffement de 0,5 degrés, ce qui peut avoir des impacts par exemple sur les flux migratoires, etc.
Et en plus, les pays annoncent, parce que ça aussi c'est dans l'accord de Paris, un objectif de neutralité carbone d'ici 2050, c'est-à-dire de ne plus émettre de carbone du tout. Donc soit ils en émettent encore et ils compensent ce qu'ils émettent, soit ils arrivent à plus en émettre du tout, ce qui va être difficile pour la plupart des pays. Et là, du coup, leur action n'est pas du tout en accord avec cet objectif.
Tout à fait, exactement. C'est l'autre point qu'on souligne en fait dans ce rapport. C'est l'écart de crédibilité entre cette vague d'annonces d'objectifs de neutralité carbone à 2050 et les objectifs des pays pour réduire leurs émissions en 2030. S'ils effectueraient ces réductions d'émissions en 2030, comme ils le promettent, ça ne leur permettrait pas d'atteindre cette neutralité carbone.
Donc ça remet en cause la crédibilité des déclarations des pays.
Exactement. On peut se poser la question sur à quel point sont crédibles ces objectifs de neutralité carbone. Dans le Climate Action Tracker, on en a analysé 25. Sur ces 25, ce qu'on note, c'est que beaucoup manquent de précision en termes de leur couverture, quels sont les gaz qu'ils considèrent, en termes de comment ils comptent atteindre ces objectifs de neutralité carbone. Et pour la plupart, ce ne sont que des annonces. Elles ne sont pas passées en loi. Elles ne sont pas inscrites dans un cadre juridique. Donc c'est bien de les avoir annoncées, mais maintenant ils doivent fournir plus de détails pour que ces objectifs fassent sens.
C'est quand même un progrès si on compile toutes ces déclarations des 40 pays que vous avez scrutés à la loupe.
Oui, alors en effet, on a quand même un progrès quand on compare avec notre dernier rapport il y a un an. En un an, donc, on a vu beaucoup de nouvelles annonces des différents pays. Beaucoup ont mis à jour leur objectif de réduction d'émissions. Et on a gagné à peu près entre 15 et 17% en termes d'ambition pour réduire les émissions à 2030. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à un écart entre les objectifs de réduction d'émissions et ce qu'on devrait faire pour être sur 1,5 degré. Entre 19 et 23 gigatonnes. Donc l'écart est encore très grand, mais c'est vrai que c'est quand même réduit par rapport à il y a un an. Mais on parle d'une réduction de 3 à 4 gigatonnes, donc à mettre en perspective.
Oui, sachant qu'une gigatonne, pour que les gens comprennent bien, c'est l'équivalent d'un milliard d'allers-retours Paris-New York. Donc voilà, on voit que l'ampleur de l'effort est colossale. Alors qui sont les mauvais élèves ?
Alors, les mauvais élèves, donc c'est évidemment jamais simple de classifier de manière très générique les pays, mais en gros, les mauvais élèves, on pourrait d'abord citer les États-Unis qui ont augmenté leur objectif de réduction d'émissions, donc ils ont augmenté en ambition. Par contre, ils sont mauvais élèves en termes d'aligner leur politique actuelle avec leur objectif de réduction d'émissions. Pour donner une idée, leur objectif est de réduire par 50% leurs émissions en 2030. Alors que leur politique actuelle les permettrait de réduire uniquement entre 17 et 20%. On peut citer la Russie et la Turquie. La Turquie n'a ratifié l'accord de Paris qu'à cette COP. Donc on est 7 ans plus tard, on va dire qu'il était temps en quelque sorte. Et dans les deux cas, ce qui pose de problème, c'est leur objectif de réduction d'émissions, qui est très éloigné de ce qui serait nécessaire de faire pour être compatible avec 1,5 degré, qui sont en quelque sorte déjà atteints à l'heure actuelle. Donc en termes de crédibilité, ils n'ont quasiment aucune crédibilité en termes d'objectifs de réduction d'émissions.
Alors ensuite, il y a la catégorie des élèves qu'on pourrait appeler moyens, dans laquelle rentre la Chine.
Oui, tout à fait. Alors ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'elle a un objectif de réduction d'émissions qu'elle serait en mesure d'atteindre quand on regarde ses politiques actuelles. Par contre, ce qui est assez décevant de ce point de vue-là, c'est qu'elle a mis à jour cet objectif lors de la COP, là, à Glasgow, sans augmenter son ambition particulièrement. Et quand on pense que c'est l'un des principaux émetteurs global, il serait très important que la Chine fasse un pas en avant pour réduire ses émissions.
Et que donne l'Union européenne ?
Alors l'Union européenne, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'elle a augmenté son ambition. Maintenant, l'Union européenne vise 55% de réduction d'émissions à 2030. Ce qui est intéressant avec l'Union européenne, c'est qu'elle propose un paquet législatif pour atteindre cet objectif. Donc on va dire qu'il y a un aspect concret en termes de comment elle compte y arriver. Par contre, le gros problème de l'Union européenne, c'est à nouveau l'ambition, qui n'est pas assez suffisant pour être sur les 1,5 degrés.
Alors, il y a quand même des bons élèves, notamment, et c'est étonnant, la Gambie est le seul bon élève. Expliquez-nous ça.
Tout à fait. Donc, cette analyse que nous faisons au sein du Climate Action Tracker, la Gambie est l'unique pays qui a un objectif de réduction d'émissions compatible avec les 1,5 degrés. La Gambie contribue de manière presque insignifiante aux émissions globales, alors qu'elle fait preuve de leadership en ayant un objectif de réduction d'émissions en ligne avec les 1,5 degrés.
Mais comment est-ce que ça s'explique, ça ? Pourquoi la Gambie sort comme ça du chapeau ?
Alors, ce qui est important de noter dans le cadre de la Gambie, quand on compare avec ce qui est nécessaire de faire pour être compatible avec les 1,5 degrés, quand on regarde d'un point de vue de la justice climatique, on n'a pas tous la même responsabilité en termes d'émissions émises. Donc les pays développés ont une énorme responsabilité puisqu'ils sont passés par l'industrialisation. Et donc quand on regarde le cas de la Gambie, son objectif de réduction d'émissions est assez ambitieux et correspond au 1,5 degré. Par contre, elle devra recevoir un support international financier pour pouvoir réduire ses émissions à ce niveau-là. Ça sera très important en termes de justice climatique.
Merci beaucoup.
Je vous remercie. Merci à vous.
C'est pas du vent sur RFI.
Global warming.
It's hot.
Global warming.
It's not cool.
Global warming is too warm for food.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
La justice climatique, c'est l'obsession vitale des pays les plus vulnérables dans ces négociations onusiennes. Selon l'ONG German Watch, au cours des 20 dernières années, 11 000 phénomènes météorologiques extrêmes ont provoqué la mort de près de 480 000 personnes dans des pays comme Haïti ou le Mozambique qui manquent cruellement de moyens pour s'adapter aux conséquences des ouragans qui les assaillent. Les pays africains et les petites îles ont pourtant du mal à se faire entendre dans ces négociations. Écoutez les explications de Lee White, le ministre gabonais de l'Environnement, coordonnateur du groupe africain à la COP26.
Je dirais que c'est inacceptable. Les pays développés ont des difficultés à comprendre que c'est une question de vie et de mort dans beaucoup de pays africains. C'est une question de stabilité. On prévoit que la moitié des pays africains vont avoir les guerres civiles ou les guerres à cause du manque de l'eau, manque de nourriture. Donc c'est très, très frustrant en tant que négociateur depuis 15 ans. Au niveau de la Convention climat, on a l'impression que ça nous prend 10 ans pour prendre des décisions qui, normalement, on devrait pouvoir prendre dans une année.
Avec des voix qui, malgré tout, comptent plus que d'autres. Est-ce que les voix des pays industrialisés, notamment les Américains, les Chinois, les Européens, n'arrivent pas plus souvent à leur fin que les pays africains dans ces négociations ? Alors que ce sont les plus vulnérables. Je pourrais dire la même chose pour les petites îles, par exemple.
Ici, souvent, on a l'impression que le poids est proportionnel aux émissions de CO2. Si vous êtes un pays émetteur de CO2, vous comptez dans ces négociations. Mon pays, le Gabon, on est le pays le plus positif en carbone au monde. On absorbe chaque année plus que 100 millions de tonnes, un tiers des émissions de la France. Mais on n'a pas l'impression que notre voix porte. Si on peut souder l'Afrique, on a quand même 54 voix. Si on peut faire une alliance avec les petites îles, ensemble, on représente presque 100 voix. Donc, on devrait pouvoir peser dans ces négociations. Même si entre nous 100 voix, on n'a que peut-être 4% des émissions mondiales.
Le Gabon est le premier pays africain à avoir reçu des paiements internationaux pour sa protection des forêts. La Norvège a versé à votre pays 17 millions de dollars en contrepartie de tonnes de carbone séquestrées. Grâce aux mesures que vous avez mises en œuvre pour lutter contre la déforestation, quel type de mesures ?
Depuis 20 ans, on a eu une série de politiques qu'on a mis en place. 2001, un code forestier qui oblige les forestiers de faire une gestion durable de leur concession. 2002, annonce de 13 parcs nationaux. 2007, la loi sur les parcs nationaux. 2009, l'interdiction de l'exploitation des grumes. 2010, mise en place de notre Conseil national climat, présidé par le chef de l'État. Un plan climat qui est sorti en 2011. Une loi sur le développement durable en 2014. Une loi sur les changements climatiques en 2021, jusqu'avant d'arriver ici. Donc, toute une série des actes législatifs. C'est 20 ans de travail qui fait que notre taux de déforestation est resté à moins que 0,1%. C'est un investissement continu sur 20 ans qui fait qu'on est positif en CO2. Et cet accord avec la Norvège, c'était un accord de 150 millions de dollars. Donc les 17, c'est le premier paiement sur la base de nos résultats en 2016-2017. On a l'impression que 150 millions de dollars, c'est énorme. Mais le Gabon absorbe 100 millions de tonnes de CO2 par an, net. À 10 dollars, ce sera 1 milliard de dollars par an. Donc on peut facilement faire l'argument que le Gabon mérite 1 milliard de dollars par an, pas 150 millions de dollars sur 10 ans. En proportion, c'est vraiment pas une récompense à nos efforts.
Alors c'est le principe du marché carbone qui est en discussion ici à la COP26, hein, dans l'article 6 de l'accord de Paris qui attend toujours ces mesures de mise en œuvre. Est-ce que ça veut dire que pour de nombreux pays d'Afrique centrale, les forêts pourraient être le nouveau pétrole ?
Je pense pas. D'abord, le marché n'existe pas pour l'instant. Et à 10 dollars la tonne, si on prend le cas du Gabon, que je connais le mieux, à cause des changements climatiques, on va perdre notre économie pétrolière sur les prochaines 10-20 ans. Donc, à cause des émissions des pays développés, 60% de notre économie va disparaître. Donc, on doit trouver quelque part un bon vingtaine de milliards de dollars pour remplacer le pétrole dans l'économie. Avec un marché de carbone à 10 dollars, maximum qu'on peut espérer, c'est 1 milliard de dollars. On doit trouver 20 milliards pour remplacer le pétrole. Donc, à mon avis, c'est l'exploitation durable de la forêt avec une transformation du bois au Gabon qui va créer des emplois et des revenus pour le Gabon. Je vois le marché de carbone comme quelque chose qui vient en appui. Ça peut peut-être rendre l'exploitation forestière un peu plus profitable avec en complément le marché des services écosystémiques. Le bassin de Congo fournit la pluie dans les montagnes d'Éthiopie qui alimente le Nil bleu, qui est utilisé pour l'irrigation de l'agriculture en Égypte.
Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut relier les enjeux de biodiversité aux enjeux de climat, parce que par exemple, que dire à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et à la Mauritanie qui ont découvert au large de leur côte des réserves pétrolières et gazières ces dernières années?
On va l'aider, c'est très bien, mais vous n'avez pas le droit de les exploiter.
Donc il va bien falloir compenser, trouver des solutions, et ça pour l'instant, au sein de la Convention des Nations Unies sur le climat, ces mécanismes n'existent pas.
À mon avis, oui, mais on n'est pas encore là. Mais c'est ce qu'on discute, donc on doit y arriver. Je pense qu'on a fait du progrès. On a vu ces derniers 12 mois beaucoup de problèmes liés au climat. On est habitué de voir des enfants en Afrique qui meurent de changement climatique. Le monde est devenu insensible à ces images. Maintenant, on voit Allemagne sous l'eau, on voit des chutes dans le métro de New York. On voit des feux de forêt dans tous les pays du Méditerranée. On commence à voir des gens dans des pays développés qui meurent à cause des changements climatiques. Maintenant que les changements climatiques commencent à impacter les pays développés, on va voir plus d'agences et plus de réactions et plus de solidarité, j'espère.
There is no planet B. C'est pas du vent.
There is no planet blah.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Blah 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 blah. Net zero by 2050. Blah blah blah. Net zero. Blah blah blah. Climate neutral. Blah blah blah.
La solidarité existe bien chez les Écossais et les Anglais. Des jeunes et leurs fanfares se sont enregistrés et filmés dans de nombreuses villes pour créer ce morceau collaboratif diffusé dans une chouette vidéo sur les réseaux sociaux au moment de la COP. Le titre « Enough is enough », traduction « Trop, c'est trop ».
Thank you.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Glasgow à la COP26 où se déroulent les dernières négociations avant la publication du texte final. Un texte final dont le brouillon semble complètement hors sol puisqu'il n'y a presque rien de concret pour aider les pays les plus vulnérables à s'adapter aux conséquences du changement climatique. L'adaptation est pourtant un thème central. Définition et explication avec Yamit Dagnet, directrice du programme négociation climatique au World Resource Institute.
L'adaptation au changement climatique inclut toutes les mesures prises par l'homme, par les gouvernements, pour se préparer justement aux impacts divers des changements climatiques. Ça peut être pour les sécheresses, pour les inondations. Donc, quelles sont les structures que je vais mettre pour éviter justement la montée des eaux, que les maisons qui sont à côté ne soient pas toujours inondées? Comment prévenir la population à temps en cas de crue de se protéger? Comment faire en sorte que la population se prépare aussi en cas de cyclone pour minimiser les pertes de vie, pour minimiser les dommages sur les infrastructures? Donc ça, ce sont des exemples d'adaptation. Il y a aussi justement, quand il s'agit de l'agriculture, comment faire en sorte qu'on puisse justement cultiver des grains, des fruits, des légumes qui sont beaucoup plus résistants à la sécheresse. Donc voilà, ce sont des exemples justement de mesures qui sont prises pour s'adapter justement à tous les changements auxquels nous faisons face.
Mais au-delà de l'adaptation, il y a un moment où on ne peut plus s'adapter, où par exemple quand un cyclone arrive ou quand la mer monte trop à cause des conséquences des changements climatiques, là ça devient inéluctable. Il y a un mécanisme qui a été créé il y a 8 ans, il y a 8 ans quand même, au sein des négociations sur le climat, qui s'appelle le mécanisme des pertes et préjudices. Aujourd'hui, il est toujours vide, ce mécanisme. Comment est-ce que ça peut s'expliquer, ça?
Alors, les pertes et les préjudices ont été mis en avant par les petites îles en développement et par les pays les plus pauvres depuis, en fait, 3 décennies. Et à Paris, c'était la première fois qu'on avait tout un article là-dessus.
En 2015.
Et pour pouvoir avoir cet article, un des compromis, c'était justement qu'on puisse avancer à condition qu'on ne soulève pas la question de réparation, de compensation et de redevabilité des pays développés. Les pays développés qui ont contribué le plus de manière historique au problème.
Ce sont surtout les Américains qui ne voulaient pas accepter cette notion de redevabilité.
On les entendait le plus, mais tout le reste des pays développés, y compris l'Europe, était en accord avec les Américains sur cette question.
Mais là, on est complètement en décalage avec la réalité, parce que la réalité, c'est que ce sont les pays occidentaux qui sont responsables, clairement, des conséquences des changements climatiques que subissent ces pays les plus vulnérables.
Tout à fait. Et justement, ce qu'on voit, après 8 ans, après ce compromis, on voit que les pays vulnérables commencent à être frustrés et commence à mettre en place des mécanismes en dehors justement des négociations.
Parce que donc dans l'accord de Paris, les pays les plus vulnérables ont accepté qu'on garde ce mécanisme de dédommagement des pertes et dommages, enfin juste un mécanisme créé, sans dire que les pays occidentaux étaient responsables et redevables vis-à-vis d'eux. Donc ils ont fait un pas, plus rien.
Et depuis plus
ça
rien.
Fait
et depuis,
ans.
Voilà, ils ont fait ce pas en pensant que, ok, même si on ne parle pas de réparation et de redevabilité, on aurait justement quand même la solidarité. Il y aurait quand même des financements qui viendraient pour aider ces pays. Alors, comme disait l'ambassadrice Tina Tseke des îles Marshall dernièrement, il y a des choses qu'on ne peut même pas payer. Vous n'allez pas pouvoir payer une île qui devient engloutie. Vous ne pourrez même pas payer l'héritage historique qui se perd. Vous n'allez pas pouvoir payer, rembourser la biodiversité qui se perd. Et c'est le cas justement de mon île, de la Guadeloupe. Je viens d'un archipel où un des îlets est reconnu par l'UNESCO comme une biosphère pour l'humanité. C'est un endroit où plusieurs variétés marines viennent se reproduire.
Comment s'appelle-t-elle ?
Elle s'appelle l'îlet Carrette. Et donc, c'est une île où on avait l'habitude de prendre le bateau à travers la mangrove et de s'arrêter, pique-niquer et aussi contribuer justement à la conservation justement de cette île. Il reste à peu près 5 ans, peut-être moins, pour que justement mon fils, la prochaine fois qu'il vienne en Guadeloupe, qu'il puisse justement voir où est-ce qu'on allait auparavant. Donc qu'est-ce qu'on est en train de perdre, toute cette biodiversité? On perd justement une habitude culturelle. Et mon fils ne le connaîtra jamais.
Ça, c'est pas monnayable.
C'est pas monnayable. Et qu'est-ce que les pays vulnérables demandent? Ce n'est même pas toujours ce qui peut être monnayé, c'est comment faire pour justement gérer cette perte.
Et qu'est-ce qu'il y a comme stratégie possible?
Ben justement, pour le, on n'en parle pas. Il n'y a pas de processus pour justement établir des solutions. Qu'est-ce qui va arriver lorsque l'île de Kiribati va être engloutie? Où iraient c'est les 120 000 habitants de l'île de Kiribati une fois qu'elle sera engloutie? Comment ils vont récupérer, même mentalement, de la perte de toute leur culture, de leurs vestiges? C'est quelque chose quand même d'irréparable. Donc ce sont des questions qu'il faut commencer à aborder de manière pragmatique. Il faut laisser justement les pays développés qui ont fait la politique de l'autruche pendant toutes ces années, en pensant que pour des raisons justement d'inquiétude, de peur par rapport à la question de réparation, on ne va pas toucher à ce dossier. Et on voit que des pays comme Antigues, Tuvalu, ont décidé de mettre en place un comité justement pour les petites îles insulaires pour faire valoir justement leurs droits légaux, pour trouver des financements en utilisant le principe « les pollueurs payent » pour financer la manière dont ils pourraient faire face à ces pertes et ces préjudices. Ce dont on a besoin, c'est une véritable coopération et solidarité face à cette question.
Heureusement, la solidarité existe à travers des initiatives comme celle que l'on rencontre par hasard autour du Scottish Event Campus où se déroule la COP26.
My name's Barbara Keel and this is the coat of hopes that I'm
wearing. Je m'appelle Barbara Keel. Et je porte le manteau des espérances. J'ai marché avec pendant 9 semaines sur plus de 900 km depuis le sud du Royaume-Uni. Sur ma route, des centaines de personnes ont décoré ce manteau avec des morceaux de couverture sur lesquels ils ont brodé leurs prières et leurs espoirs pour que leur terre soit épargnée par le changement climatique. Nous venons ici tous les matins pour inciter les leaders mondiaux à revêtir ce manteau pour qu'ils ressentent le poids et la chaleur de ces espoirs. Nous faisons cela dans une communion active, profonde et solidaire avec l'ensemble de l'humanité. Vous voulez porter le manteau?
Donc là, je porte le manteau et à chaque fois qu'on porte le manteau, il y a une chanson à chanter. Alors on va essayer de la chanter ensemble.
Oh yes, that would be wonderful. Ask me where I'm going. Ask me what is my purpose. Ask me what my name is. They call me the coat of hope.
R.F.E. Overwhelming consensus on global warming.
Climate is changing, weather patterns are changing, and that over the long term it will have a significant.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
I'm worried about the future we're going to leave to our children in the world.
Des questions, des réactions. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
For centuries, the rays of the sun have warmed.
And start to prepare.
Il n'y a pas qu'au sein de la Convention des Nations Unies sur le climat que se joue la transition écologique. Il y a l'action des entreprises, des villes, des citoyens. Ronan Dantec est sénateur de Loire-Atlantique en France, porte-parole climat de CGLU, cités et gouvernements locaux unis, et président de l'association Climate Chance, qui vient de publier un rapport de 200 pages sur la manière dont la transition écologique avance concrètement dans le monde.
Le rapport Climate Change, c'est la 4e édition. C'est un peu le rapport Saint-Thomas du climat, c'est-à-dire qui ne mesure pas l'impact des engagements, mais qui mesure vraiment l'action réalisée, la baisse ou la montée des émissions.
Saint-Thomas qui a dit « je ne crois que ce que je vois ».
Absolument. Mmh. Donc nous ne croyons que ce qui est mesurable en termes de réduction et d'évolution des émissions. Et je crois que c'est un rapport sur lequel on insiste cette année sur, évidemment, l'après-Covid, puisqu'il y a eu une baisse mondiale des émissions l'année dernière. Et donc tout le monde attendait 2021 pour savoir si les émissions remontaient plus haut ou plus bas qu'en 2019. Et nous, ce qu'on dit très clairement, c'est qu'en fait, on ne peut plus analyser le monde de manière globale. Il y a au moins trois blocs. le bloc de ceux qui avaient commencé à baisser leurs émissions, en particulier l'Europe, mais aussi les États-Unis, le Canada, donc on va dire un peu le bloc occidental, les émissions de 2021 sont en dessous les émissions de 2019, ce qui veut dire que la tendance à la baisse continue. À l'inverse, en Asie, et notamment évidemment en Chine, qui est le grand émetteur mondial de CO2, les émissions continuent de bondir. Et il y a un troisième bloc, qui est un bloc où finalement les émissions témoignent d'autre chose, qui est le bloc africain et du Moyen-Orient, donc les pays les moins développés, où là, il y avait plutôt une hausse structurelle des émissions, y compris le développement urbain en Afrique. On voyait les émissions monter chaque année. Et là, elles ne remontent pas. Et elles ne remontent pas parce que la crise économique liée au Covid est toujours extrêmement importante. Et finalement, on mesure cette difficulté de développement africain à travers le fait que les émissions ne retrouvent pas le niveau de 2019.
Parmi les acteurs non étatiques très actifs, il y a les villes. Vous êtes, je le disais, aussi porte-parole de climat de CGLU, donc Cité et Gouvernements Locaux Unis. Les villes sont souvent plus actives que les États.
Les villes peuvent être en avance sur les États, mais quand même, généralement, si elles sont dans un ensemble politique qui va dans le bon sens. En clair, aujourd'hui, ça c'est un résultat très très intéressant, mesuré dans le cadre de la dynamique du pacte des maires européen, les villes qui sont membres du pacte des maires, c'est quand même beaucoup de territoire et c'est à peu près, on va dire, à peu près 15% de la population européenne. Donc c'est significatif. On a eu l'année dernière un rapport d'analyse qui montre que ces villes, aujourd'hui, sur la période 2003-2017, ont représenté 28% des réductions d'émissions européennes. 28% en étant 15% de la population. Ce qui veut dire qu'elles vont plus vite, à peu près 10 points plus vite que les objectifs européens, et qu'elles participent donc quantitativement du résultat européen.
C'est-à-dire mais comment concrètement ?
Elles ont souvent la maîtrise de leur système énergétique, et notamment, ça on le voit bien sur les villes du Nord, le fait de passer en renouvelables, en biomasse par exemple, sur les grands réseaux de chaleur qui étaient autrefois au charbon, a un impact considérable. Donc avoir les outils de maîtrise territoriale de son évolution énergétique a un impact très très fort. Ça, là, vraiment, on le démontre. On a des cas d'études, Helsinki par exemple, ou Copenhague, ça c'est très très clair. Donc maîtrise de l'énergie, offre de mobilité. On a développé à vitesse supersonique la part du vélo dans la mobilité urbaine avec des milliers de kilomètres de lignes cyclables en quelques mois quasiment. Et c'est une tendance là que le Covid a accéléré, une baisse de la pratique des voitures et en plus la sortie progressive, assez lente quand même, du véhicule fossile. Globalement, aussi les choix d'accompagnement sur le bâti, même si sur le bâti au niveau européen, on manque encore certainement des grands outils financier d'accompagnement d'une rénovation qui va prendre des dizaines de milliards à l'échelle européenne, où là, je pense que les outils financiers, notamment d'accompagnement européen, restent faibles. Mais effectivement, ça veut dire quand même que ces villes crédibilisent l'engagement européen. C'est-à-dire que c'est vraiment pas marginal, c'est plusieurs points de la baisse actuelle des émissions de gaz à effet de serre en Europe.
Alors ça, c'est en Europe. Est-ce que ça se retrouve ailleurs ?
Plus difficilement. D'abord, on a toujours un énorme problème de données. On manque de données, on manque énormément de données en Chine. Moi, je pense par exemple que la question du bâti en Chine, quand on va en Chine et qu'on regarde la qualité du bâti, on n'a quand même pas le sentiment qu'on est sur des bâtiments avec une efficacité énergétique énorme. Donc la Chine construit beaucoup, déjà émet du gaz à effet de serre pour construire, pour le béton, pour les matériaux, mais en plus, elle construit certainement encore très mal. Et là aussi, on a des gros enjeux, mais on n'a pas les données. Et on ne voit pas quels sont les signaux aujourd'hui d'une priorité chinoise finalement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et notamment à l'efficacité énergétique. Quand le rapport dit qu'on ne peut plus analyser le monde globalement, il faut analyser les grands blocs qui sont déjà avec des différences évidemment d'un état à l'autre, mais globalement, quand on analyse les grands blocs, qu'est-ce que dit le rapport ? Qu'est-ce que dit l'évolution des émissions ? Qu'est-ce que dit la négociation climat ? C'est que quand même, les Chinois aujourd'hui, qui ne sont plus un pays en développement, évidemment, ne mettent pas la plus-value, les ressources que la Chine tire d'être l'usine du monde, sur sa propre efficacité énergétique. Elle les met sur sa puissance, sur les routes de la soie, sur ses programmes militaires. C'est cette discussion qu'on devrait avoir avec les Chinois. Mais on voit bien qu'ils ne sont pas venus en nombre à Glasgow pour en discuter au fond. Et que c'est évidemment une discussion très compliquée. Mais on est dans ce moment-là de la négociation climat.
Et en Afrique ?
Et en Afrique, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment sérieusement à se poser la question du modèle énergétique africain. Dans les engagements de la COP, on voit qu'il y a cette idée de ne plus, les Chinois les premiers l'ont dit, de ne plus financer les nouvelles installations charbon. Ok. Donc l'Afrique va produire comment l'énergie dont elle a besoin? C'est-à-dire, est-ce qu'on
a du renouvelable.
Un plan, mais est-ce qu'on a un plan massif d'investissement sur le renouvelable en Afrique? La plupart des pays africains n'ont pas les reins assez solides pour produire eux-mêmes l'investissement nécessaire. Donc là, on a une vraie question. Et on a des questions de modèles urbains africains. Le C40 avait sorti une étude il y a quelques années qu'on avait repris dans
un... Le C40, c'est aussi un groupement de villes.
Le réseau des très grandes villes du monde avait sorti une étude il y a quelques années qui disait quand même que les classes moyennes de Lagos, finalement, émettaient plus de gaz à effet de serre que les classes moyennes européennes. Donc c'est quand même des signaux d'augmentation des émissions en Afrique qui ont été effectivement bloqués par la crise Covid et qui ne repartent pas, mais qui sont quand même potentiellement en situation de repartir. Donc là aussi, quel accompagnement, quelle capacité d'investissement, quelle capacité d'accès aux emprunts pour les villes africaines, ces questions-là sont vraiment sur la table, parce que sinon, on va reproduire un modèle non soutenable en Afrique. Et quand on parle des classes moyennes urbaines, là, très clairement aussi, il faut arrêter avec ce qui est un peu une paresse d'analyse sur, certes, la Chine, en tant qu'usine du monde, a une partie de ses émissions liées à notre consommation, mais c'est 10% de ses émissions. 10%. Et quand on regarde donc les classes moyennes urbaines chinoises, il est très clair que les classes moyennes chinoises, pour leur propre confort, émettent par habitant beaucoup plus de gaz à effet de serre que les classes moyennes européennes. Donc ça, c'est un élément qui doit aussi être sur la table aujourd'hui dans la discussion.
Merci Ronan Dantec.
Merci.
Ils sont venus du Zimbabwe, du Chili, de l'Iran, de la Syrie, d'Inde, d'Afghanistan. Ils se sont réfugiés à Glasgow où ils forment désormais un groupe Musicians in Exile. Ils se sont produits à la COP26. Always on the move, always, always on the move. Yeah, together we shine, got the road to persevere inside of a life through the harshest situation sailing. What you hear, we are as a dozen, got a crown to survive, metal victory to all survivors. A siren's coming, Glasgow beat the waiting, the people make the city, yeah, that's right, together we stand still. And we're saying safe and sound, we're musicians in exile, and this is a song I have saying. Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Glasgow en Écosse pour vous faire vivre la COP26. Vous l'avez compris en écoutant cette émission, le décalage entre les déclarations des États faites ici et le niveau de leur action pour enrayer le changement climatique ne cesse de s'accentuer. Laurence Toubiana, architecte de l'accord de Paris et présidente de la Fondation européenne pour le climat, s'inquiète de ce manque d'ambition qui décrédibilise le processus.
J'ai des doutes un peu. Alors, ce qui marche effectivement, c'est que après, quand même, évidemment, les difficultés liées à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, le Covid, et donc une préparation très difficile de cette COP, on voit quand même que l'accord de Paris marche. Les pays se sentent obligés de faire des annonces qui ont été essentiellement quand même sur le très long terme, sur 2050, qui est une bonne chose. Quand même, peu, en revanche, de pays ont vraiment respecter la clause qui était de revenir avec des contributions révisées. Beaucoup ont soit remis les mêmes, parfois même des contributions moins ambitieuses qu'en 2015. Certains, heureusement, ont quand même progressé. Donc on a, par rapport au scénario qui était publié juste avant la COP, avec une évolution des émissions de plus 16%, avec ce qu'il y avait sur la table, un peu plus de 16% par rapport à 2010 en 2030. Là, on a baissé un peu, on est plutôt aux alentours de ce que les différentes institutions ont évalué à plus de 13%. Donc on est quand même en décalage, étant donné quand même ce qui s'est passé depuis Paris, c'est-à-dire la meilleure compréhension de la différence entre un réchauffement des températures de 2 degrés et un réchauffement des températures de 1,5 degré, ce qui était évidemment, comme on le sait, obtenu à la dernière minute dans l'accord de Paris.
0,5 degré de différence de température, c'est 5 fois plus de catastrophes.
Alors maintenant, on le sait. D'ailleurs, les textes sont farcis de références, c'est beaucoup plus grave. C'est très important de maintenir 1,5 possible. Mais quand même, tout ce qui s'annonce aujourd'hui pour 2030 ne permet pas de le faire. Donc il y a quelque chose qui est assez perturbant, plus sans doute beaucoup de choses qui ont été du déclaratif, des coalitions volontaires, qui peuvent paraître très intéressantes. Le méthane, c'est important. La forêt, c'est important. C'est pas la première déclaration. On voit le Brésil l'a signé. Pour l'instant, on a eu quand même une explosion de la déforestation depuis le début du mandat de Bolsonaro. Donc, ce qui pose question, c'est la réalité de tout ça. Et si, en plus, ces COP, où on est vraiment dans le moment de la mise en œuvre, mais si tout se fait de façon volontaire, sans vérification, sans régulation, on va tourner en rond et ça va permettre au fond au pays de au fond pas bouger tellement sur leurs engagements précis, quantifiés de Paris et en même temps d'occuper le terrain avec des choses qui ne sont pas vérifiables. Donc je suis très ambivalente sur le résultat du point de vue de cette honnêteté qui me paraît être la seule réponse à ce que les citoyens aujourd'hui demandent, les jeunes dans la rue, alors c'est très bien, tout le monde leur dit « vous êtes formidables, on a besoin de vous ». Mais quelle est la réponse? La réponse n'est pas le sérieux. Antonio Guterres a souhaité installer un mécanisme, en tout cas une réflexion, sur cette crédibilité de tous ces engagements volontaires, de tous ceux qu'on appelle les non-partis, donc qui sont hors des gouvernements à proprement parler. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Si on ne retrouve pas du sérieux, on va avoir se multiplier les coalitions, on va voir ce petit les engagements, on va croire qu'on y va, et en fait, on fera du surplace, ou en tout cas, on avancera très lentement.
Il y a 3800 journalistes à cette COP26, et c'est vrai que l'essentiel des informations qui sont diffusées sur cette COP, c'est en effet ces coalitions sur les forêts, le méthane, la fin des subventions aux énergies fossiles. Il y a beaucoup d'excitation médiatique autour de ces thèmes-là, et ça gomme un peu, finalement, les enjeux de la négociation onusienne.
Oui, surtout que là, les enjeux de la négociation onusienne, et c'était ce que voulaient les Britanniques, et c'était très bien de dire, mais vraiment, il faut prendre 1,5 degré au sérieux. Dans les textes qui sont là, on n'a aucune garantie, vraiment, même aucun engagement ferme pour qu'on fasse des progrès, parce que c'est dans les 3 prochaines années, ou en tout cas l'année prochaine déjà, et en 2023, qu'il faut faire des progrès par rapport à ce qui est sur la table et qui est insuffisant. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites 40 fois. La fin des subventions aux énergies fossiles, ça remonte, je pense, qu'à plusieurs G7 et maintenant aussi au G20. Donc, très bien, il vaut mieux que ce soit dans le texte que pas. Mais au fond, qu'est-ce que ça fait? D'une part, ça occupe de l'espace, donc au fond, ceux qui ne font rien sont au fond protégés par ce bruit de communication. Ceux qui font vraiment sérieusement, malheureusement, ils ne sont pas récompensés pour ce qu'ils font. Donc il y a un problème de crédibilité là qui me paraît être généralisé avec des phrases très sympas sur l'accélération de l'action, mais pas de date.
L'esprit de l'accord de Paris, c'était un équilibre entre l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation pour les pays les plus vulnérables. L'adaptation est assez absente jusque-là. Il y a un comité d'adaptation qui sera peut-être créé à la fin de cette convention des Nations Unies sur le climat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle, même si, quand on regarde dans le texte, pour financer que ce soit l'adaptation ou ce fameux mécanisme des pertes et dommages qui aide à financer quand on n'en est plus dans l'adaptation mais qu'on est vraiment à la réparation des catastrophes, tout cela reste vide pour l'instant. Mais est-ce que vous pensez que ça avance de ce côté-là?
Évidemment, pour l'instant, c'est déséquilibré. Il y a peu de choses sur finance, peu de choses sur adaptation. On verra aussi la prolongation de la négociation au niveau ministériel aujourd'hui. Mais le fonds pour l'adaptation, il est tout petit quand même. C'est bien qu'il existe, c'était bien à Paris qu'il soit abondé, mais enfin on est 6 ans après. La même chose pour les pertes et dommages. Entre 2015 et aujourd'hui, la sévérité des accidents climatiques, c'est plus une hypothèse. Les problèmes de dette, d'endettement des pays qui sont le plus affectés par ces événements, en particulier évidemment les territoires qui sont petits, comme les îles, qui sont très endettés liés à ces catastrophes. Bon, un mécanisme financier pour les pertes et dommages, je crois qu'on n'y est pas encore. Je trouve que de ce point de vue, les grands émetteurs s'en sortent pas mal.
S'en sortent pas mal, c'est ironique.
Oui. Oui, ils s'en sortent pas mal, il n'y a pas trop de pression. Enfin, il y a des bonnes intentions. Hein. Bien sûr, l'Europe a pris un engagement ferme avec un plan ferme. Les États-Unis, ça reste à voir, puisqu'ils ne savent pas comment ils vont le faire. La Chine a dit, faites-nous confiance, mais c'est avant 2030. Et par ailleurs, pour tous les autres. Donc, qu'est-ce qu'il y a au fond de nouveau ? Certains engagements à 2050 pour la neutralité carbone, sans plan précis, la plupart du temps, pour y arriver. C'est pour ça qu'il fallait l'obtenir pour l'année prochaine. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas de date butoir pour remplir cette incohérence entre ces engagements très positifs sur 2050 et aucune idée de comment on va y arriver. Du coup, problème, une partie du texte dit 1,5, c'est pour 2100. Donc ça veut dire qu'on admet qu'on va dépasser le budget carbone qui nous est autorisé pour se limiter les températures à 1,5 degré et qu'on verra après comment on va faire pour retirer le carbone de l'atmosphère. Donc quand même, on joue avec le feu et puis quoi, on va avoir de la géo-ingénierie pour arranger tout ça.
Sachant qu'on est déjà à plus 1,1 degré de réchauffement, donc est-ce que tout cela vous amène à considérer qu'il y a une déconnexion grandissante, peut-être entre l'impact des changements climatiques qui grandit à l'extérieur, dans le monde réel, j'ai envie de dire, et les décisions qui sont prises au sein de la Convention des Nations Unies sur le climat?
Je ne veux pas avoir l'air pessimiste, de l'accord de Paris, il marche, les pays se sentent obligés de faire des plans à long terme. Mais il y a quand même un problème de cohérence entre ce que nous dit la science encore et les réactions qu'on met en face. Ça, c'est vrai. Ça, pour l'instant, c'est pas cohérent.
Et ça peut, du coup, créer ce manque de crédibilité dont vous parliez, notamment dans l'opinion qui attend des actions fortes des États.
Oui, parce que si on doute du sérieux, si on entend les grandes compagnies pétrolières ou de gaz dire on est neutre en carbone, on va l'être, et que évidemment personne ne peut les croire, étant donné qu'ils ne se reconvertissent pas pour l'instant, qu'ils disent qu'il nous faudra du gaz et du pétrole encore jusqu'à je ne sais plus quand, s'il y a doute, au fond, pourquoi faire? Du coup, ça décourage tout le monde. La première tonne d'acier zéro carbone a été vendue en Suède. Il y a les mêmes réflexions en Inde aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont ces front-runners, enfin ceux qui sont en avance, si au fond, finalement, tout le monde... Mais si c'est trop lent, où est-ce que ça nous emmène? Donc le doute est dangereux. C'est pour ça que je dis que le greenwashing, c'est une nouvelle manière de nier le changement climatique, parce que c'est une manière de ralentir tout. Et le ralentissement, il est très dangereux.
Reste à attendre la fin des négociations et le texte final. Les équipes de RFI sont mobilisées pour vous faire vivre cette conférence ici à Glasgow. Merci à François Porcheron pour la prise de son et la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Ce samedi sur RFI.